Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h, c'est l'heure de la causerie, une causerie comme toutes les semaines, confinée depuis des mois et des mois, mais c'est pas grave, on est quand même là, en tout cas on essaie d'être là tous les dimanches. Ce soir, eh bien c'est Clara qui est à nos côtés.
Hello, hello.
Et il y a Fab à nos côtés aussi.
Hello, hello. Enfin, à nos côtés, via les ondes.
Oui, plutôt en face, en fait. Hein.
Par écran interposé.
C'est ça, par écran interposé.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture.
Oui, tout à fait. Enfin, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Je te présente.
Mais c'est très sympa de ta part. Donc, on rappelle quand même, pour une notion de justesse et de rigueur, n'est-ce pas, cette émission est enregistrée le 1er mai à 17h et quelques petites minutes. Et avant de commencer, comme à notre habitude avec nos sujets, on va juste rappeler comment vous pouvez nous contacter. Donc, ça se passe par mail, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment tous les podcasts des 389 émissions précédentes sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. On est aussi sur des plateformes d'écoute en ligne, etc., etc. Si vous voulez nous trouver, potentiellement, vous tapez la causerie Canu et vous devriez nous trouver. Voilà, je crois que j'ai rien... Ah, si, il y a Fabien qui va dire un truc.
Non, tu n'as rien oublié. Enfin, on est aussi sur les réseaux sociaux, mais ça...
Ah oui, voilà. Oui aussi.
Voilà, les plateformes de streaming, tout ça, mais ça, c'était pas pour ça que je demandais la parole. Juste saluer les copains et copines de Dead Moon Knight qui sont juste avant nous et avec qui on partage la diffusion. Ben voilà, c'est grâce à un partage de diffusion entre eux et nous que tous les dimanches, vous savez, ces deux émissions qui s'enchaînent parfaitement et sans aucun problème technique, comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps. Voilà, mais ça arrive, les problèmes techniques, hein, c'est pas grave.
Deux problèmes techniques en l'espace de presque un an, c'est rien. Bah oui, t'as raison, on leur fait des bisous et bien le bonjour, comme on dit chez moi. Je crois que c'est Fab, et j'en suis même sûr, parce que là, sur mon déroulé, il y a écrit sujet 1, Fab. Donc, je crois que c'est Fab qui va commencer.
Ben oui, c'est ça. Et ce soir, je vais faire un sujet un peu long. Je le dis avant tout.
Chacun son tour. La semaine dernière, voilà. C'est moi. Cette semaine, c'est toi.
Est-ce que ce soir, je vous parle...
au sujet long, non?
Oui, ouais, c'est pas faux. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler du Tchad, en fait, et de ce qui se passe là-bas, en fait, et des liens qu'il peut y avoir aussi avec la France, des choix politiques qui ont été pris dernièrement par le président de la République, un certain Emmanuel Macron, qui a pris des positions politiques ces derniers jours assez... malsaine à mes yeux, et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Voilà. Alors, on va revenir un peu en arrière, parce que parler d'un pays sans parler pardon, d'une situation dans un pays sans faire un peu d'historique, ce serait un peu dommage. Donc, je vais vous rappeler quand même que historiquement, et comme beaucoup d'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique, pardon, le Tchad est un pays jeune, issu de la séparation du continent africain entre pays colonisateurs. Donc, ce n'est pas un pays dit historique, c'est un pays créé de toutes pièces par la colonisation. La région a une histoire longue et mouvementée. Hein. La zone où se trouve le Tchad est depuis le premier millénaire avant notre ère, hein, donc moins 1000 avant Jésus-Christ, pour ceux qui croient à ce truc-là, un endroit instable où les empires, royaumes et autres se sont très souvent affrontés. Pour cause, hein, il est idéalement placé, le Tchad, parce que qui avait le contrôle de cette zone avait entre ses mains le contrôle du commerce transsaharien, qui est quand même une des routes commerciales les plus anciennes de l'humanité. Parce que le Tchad, il est frontalier de la Libye au nord, du Niger à l'ouest, du Nigeria à l'ouest-sud-ouest, du Cameroun au sud-ouest, au sud-sud-ouest, et de la République centrafricaine au sud et du Soudan à l'est. Donc, si vous voyez une carte un petit peu du continent africain, bah, il est un peu au milieu,
ouais.
Voilà, d'une zone d'échange assez intense. Donc, c'est pour ça que qui contrôlait le Tchad, enfin la région du Tchad, contrôlait le commerce. Pour l'anecdote historique, on pense que le Tchad actuel est un des berceaux de l'humanité depuis la découverte d'un de nos très lointains ancêtres qui s'est appelé, enfin qu'on a appelé, que les scientifiques ont appelé Toumaï. Et Toumaï, ça veut dire espoir de vie en langue gorane. Voilà. Donc le Tchad va être un protectorat français de 1900 à 1920. Puis une colonie officielle après cette date. La présence de l'armée française est donc effective sur place de 1880 à nos jours, en fait, sans discontinuer. La France va y implanter une partie de ses forces militaires hors métropole, je mets des guillemets, comme on disait à l'époque, notamment un certain général de Gaulle dont tout le monde nous rabat les oreilles, qui aimait bien parler comme ça. Voilà. La raison en est simple, hein, le Tchad est donc un endroit, comme je disais, de passage pour les marchandises, et il est un très bon endroit pour produire des biens dont les colons de l'époque raffolent et ont besoin. Le coton, la gomme arabique et l'arachide pour l'huile, notamment. Ce sont, jusqu'à la découverte récente de pétrole dans le sous-sol tchadien, les principales sources de revenus du pays jusqu'à encore récemment. L'indépendance du Tchad, elle est obtenue en 1960 après des soulèvements et des guérillas. Alors oui, parce qu'il y a toute une histoire fantasmée d'une... une transition qui se serait faite en douceur et sans violence ou quoi que ce soit, c'est pas vrai, il y a eu des soulèvements de population au Tchad aussi, même si on l'a un peu historiquement oublié. La France ne voulant pas, en fait, justement, d'une nouvelle Algérie, hein, je vous rappelais qu'en 1960, on est en pleine guerre d'Algérie, hein, donc voilà, elle donnera à partir de 1958 une autonomie forte au pays avant de s'en retirer officiellement en 1960. Mais le retrait est un peu en faux-semblant, hein, faut pas déconner. La France, elle va signer avec le premier président élu, c'est François Toubal Baye, qui est un homme formé en France, hein, et qui est un très fin politique, au sens capable de se débarrasser de ses opposants, hein, par des coups politiques ou des petits coups dans le dos, hein, tout simplement, voire quelques personnes qui disparaissent. Donc la France, elle va signer avec lui le fait de rester un allié indéfectible du Tchad, son principal acheteur de marchandises, le maintien des biens français dans des holdings mixtes sur place, donc c'est-à-dire que voilà, les colons ne perdent pas finalement l'argent qu'ils avaient là-bas, hein. C'est-à-dire que même s'ils ne sont plus sur place, clairement, il y a un homme de main sur place qui va diriger pour eux, c'est exactement ce que ça veut dire, et surtout le maintien de la présence militaire française sur le territoire, avec en échange la proposition d'assumer la formation de l'armée tchadienne en devenir. Voilà. Donc on voit que
un échange de bons procédés en grosse faveur de l'ancien colonisateur.
Ah bah clairement, hein, on voit que on voit qu'on est loin de on vous rend votre liberté totale et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'ailleurs, le Tchad est donc fait de brick et de broc, hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été dessiné par les colons et la France a créé en fait des divisions fortes entre le nord qui est majoritairement musulman est proche des peuples arabes, et le sud, majoritairement chrétien animiste, est présent sur des zones plus fertiles. C'est-à-dire que le nord du Tchad est plutôt une zone très désertique, alors que le sud est une zone extrêmement verte où il y a la possibilité de faire de la culture. Donc, dès les premières années d'indépendance, le pays va se déchirer en interne dans des guerres fratricides sanglantes et violentes. En 1968, le président Toumaï Baye, hein, qui est toujours au pouvoir, hein, fait face à une forte rébellion au nord, qui va l'amener à demander quoi ? Eh ben, l'aide de la France pour rétablir la paix dans le pays, hein, c'est ce qu'on sait mot. Et c'est bien l'armée française qui va venir épauler l'armée officielle tchadienne. Alors, il faut voir une chose, hein, c'est qu'à l'époque, l'armée officielle tchadienne, elle est réduite à peau de chagrin. Donc, c'est clairement l'armée française qui fait une intervention extérieure pour mater la rébellion hein, qui en fait portait au départ cette rébellion sur un partage plus équitable de l'eau et un droit de pâturage étendu pour les populations du Nord. Parce que comme vous habitez un désert et que vous avez des bêtes à faire pâturer, si on vous ferme le sud, là où il y a de l'herbe, ça pose problème.
En fait, donc, finalement, une sorte d'égalité entre tous les citoyens qui étaient du pays, quoi.
Ouais, l'idée, c'était ça. Sauf qu'il faut savoir que dès sa création, le Tchad, il y a des très fortes tensions entre le Nord et le Sud, étant donné que pour les habitants du Nord, les gens du Sud ne sont pas vraiment des gens fréquentables. Et pour les gens du Sud, les gens du Nord ne sont pas des gens fréquentables. Mais ça date des guerres millénaires qu'il y a eu sur le continent africain entre les différents empires. Ça laisse des traces. Voilà. Quand je parle d'empire, je parle pas de colonisation. Je parle des empires qui précédaient la colonisation. Donc, on voit, hein, le rôle de la France, il est important dans cette région en termes d'intervention. C'est-à-dire que ben, c'est un petit peu son pré carré, pour, comme on dirait. Hein, c'est, voilà. Donc, Tom Mbaye, qui avait promis de quitter le pouvoir de la République du Tchad, il est toujours en place en 1975 et il est assassiné par un bataillon militaire. Alors, il y a des gens qui disent que c'est des gendarmes, d'autres qui disent que ce sont des militaires de carrière. Mais en fait, c'est des gens tout simplement qui fomentent un coup d'État parce qu'ils trouvent que le président est trop faible. Alors, en effet, à l'époque, la Libye a aidé les populations du Nord, hein, la fameuse rébellion du Nord, qui continue à exister, et elle est entrée sur une bonne partie du territoire tchadien, en fait. Kadhafi, à l'époque, parce que c'est Kadhafi qui est à la tête de la Libye, ce qu'il vise, c'est le contrôle du commerce. Parce que qui contrôle le Tchad contrôle le commerce. On revient toujours à cette position du Tchad depuis 1000 ans avant notre ère.
Voilà. Oui. Et c'est ce qu'on dit souvent, les guerres sont très souvent, alors elles peuvent être menées pour différentes thématiques, mais elles ont souvent quand même comme source et comme objectif le contrôle finalement d'un marché, le contrôle de matière, le contrôle d'une circulation de matière. Enfin, c'est toujours souvent quand même beaucoup de capitalisme qui peut se cacher derrière, fois sous des thématiques fort différentes, quoi.
Tout à fait. Et donc, c'est le général Félix Maloum qui va prendre le pouvoir. Très clairement, il va prendre le pouvoir de force, hein, parce que c'est vraiment une forme de coup d'État. Mais la guerre, elle va s'étendre jusqu'à N'Djamena, la capitale, en fait. Il doit céder la place, en fait, à Gukuni Wedei, à la suite de la première bataille de N'Djamena en 1979. Et en 1980, la seconde bataille de N'Djamena permet à Wedei d'évincer son rival, qui est Hissène Habré, qui est un autre en fait homme fort de la région, hein, avec l'aide décisive du dirigeant libyen, un certain Muammar Kadhafi. Voilà. Le Tchad passe donc sous une forme de protection de la Libye. Voilà. Beaucoup parleront en fait d'occupation, hein, ni plus ni moins, par l'armée libyenne du Tchad. La Libye, elle propose, oui.
Non, pardon, t'as peut-être pas fini sur la Libye, mais c'est juste, ça me fait sourire, enfin sourire. C'est parce que je sais que j'ai déjà eu des discussions avec des personnes, enfin diverses et variées, et qui voyaient souvent finalement Kadhafi comme un panafricain, mais là en fait, on n'est pas dans une notion de respect mutuel en fait, parce qu'il y a quand même la volonté de prendre le contrôle d'un pays aussi, quoi.
Donc, s'il était panafricain, c'était sous son égide.
Mais on ouais,
chez moi, on appelle ça un empereur. Mais
oui, bon, ouais.
Voilà.
Non, mais voilà, c'était juste parce que c'est des fois un truc qu'on entendait comme ça, alors qu'en fait, voilà, c'est un exemple où en fait, non.
Il avait un discours qui était panafricaniste, tout ça, mais en fait, dans les faits et concrètement, il s'est comporté en chef de guerre comme beaucoup de gens. Voilà. Ça. Donc la Libye, elle va proposer du coup à ce moment-là, donc en 1980, d'absorber le Tchad. Complètement, dans le cadre d'une fusion. Mais en fait, la population tchadienne, elle va résister. Alors, toujours basée sur les clivages historiques, hein, entre le sud et le nord, hein, évidemment. Et cela n'est donc du coup pas possible, parce que la résistance est assez forte. Et devinez qui va venir négocier le retrait des troupes libyennes. Eh bien, c'est la France qui va donc venir négocier le retrait des troupes libyennes en 1982. Donc, en fait, il propose qu'elle remonte au nord, donc qu'elle reste stationnée au nord du Tchad. Mais les coups d'État vont s'enchaîner à la tête du pays, entre pro-libyens et nationalistes tchadiens, entre tchadiens du Sud, tchadiens de l'Est et tchadiens du Nord. Donc, c'est très, voilà, ça s'enchaîne, c'est des tentatives de coups d'État. Enfin, c'est très, très compliqué, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais au bout du bout, c'est Hissène Habré, le fameux Hissène Habré qui avait été viré par les troupes libyennes, qui prend le pouvoir du Tchad par un coup d'État et qui va demander à la France de venir l'aider pour chasser définitivement la Libye du Tchad. Eh oui. Et donc, c'est la fameuse opération Manta. Alors, les gens ont souvent oublié ce qu'était cette opération Manta. Je vous invite à aller vous renseigner sur cette opération. Je ne vais pas la faire ici. Mais sachez que c'est une des opérations extérieures de la France qui a été, la plus mortelle, l'une des plus mortelles depuis des décennies, et surtout qui est encore classifiée et dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Voilà, voilà. Et donc, ce n'est qu'en 1987 que les forces tchadiennes, armées et formées en grande partie par la France, repoussent les forces libyennes hors des frontières du pays. Voilà, donc en 1987, le Tchad retrouve une unicité, comme on dit, à l'ONU. Cela renforce le poids politique de Habré, qui est vu comme un sauveur du pays, en fait, alors qu'en fait, dans les faits, il a plutôt laissé le pays être sauvé par une alliance avec la France. Et il a en fait réinstallé les Français dans le pays, hein, pour être clair. Et du coup, Habré, eh ben, il va être destitué par un coup d'État parce que comme il prend un petit peu de l'ampleur et qu'il se dit bah, « maintenant que le Tchad est libre et qu'il est indépendant totalement, j'ai plus besoin des Français ». Et bizarrement, un certain coup d'État va être fomenté par un certain Idriss Déby, voyez, allié de la France, et la France va le soutenir ouvertement. Voilà, elle va soutenir ce coup d'État. Elle va d'ailleurs, a priori, armer aussi les partisans d'Idriss Déby, puisqu'ils sont arrivés dans la capitale avec des armes de dernière génération, ce qui a même surpris les observateurs qui étaient sur place. Et ce sont donc le militaire Déby, son coup d'État est là pour restaurer la démocratie, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour cela que la France le soutient officiellement.
Ben oui,
voilà. Forcément. Force est de constater que la démocratie n'était pas vraiment le but d'Idriss Déby. Par un jeu sur la Constitution qui va commencer par appliquer, renlever, réécrire, remettre, enlever. Et alors, c'est drôle parce que plusieurs fois, quand il réécrit la Constitution, il s'appuie sur l'image du grand Charles de Gaulle qui a écrit la Constitution française. Vous voyez comme quoi les liens endémiques avec la France restent très puissants.
Et entre putschistes, on doit partager des trucs.
C'est ça, exactement. Donc, il va aussi annuler des élections, les reprogrammer, interdire des candidats, mettre de côté, enfermer des gens qu'il estime être des rebelles, alors que ce sont simplement des opposants politiques. Il va interdire des partis politiques aussi, c'est pratique, comme ça on est sûr qu'ils ne se présentent pas aux élections. Et ben, il va se maintenir au pouvoir pendant 30 ans sans discontinuer. Donc, c'est long, 30 ans quand même, quand on regarde bien. La découverte de pétrole dans le sous-sol tchadien début des années 2000 va même lui assurer en fait de pouvoir arroser largement l'armée de la manne financière issue du pétrole. À noter donc que le Tchad est l'une des premières forces militaires du continent africain parce qu'en fait c'est un pays qui est tenu par des militaires depuis quasiment son indépendance. Donc qui est le mieux nourri dans un régime militariste? C'est l'armée jusqu'à preuve du contraire.
Souvent, ouais.
Et en fait, le Tchad, pour rayonner, il fournit beaucoup de militaires pour les opérations extérieures de l'ONU, de l'Union africaine et d'autres guerres contre le terrorisme, vous savez, ces fameuses guerres menées par la France dans ce coin de l'Afrique. Le pays est donc tenu d'une main de fer par Idriss Déby, qui va même se transformer en interventionniste dans la région, ce que le Tchad n'avait jamais fait, en prenant dans la guerre du Congo, qui avait lieu maintenant 20 ans, à peu près 30 ans, pardon, 30 ans, il va prendre le parti de soutenir militairement le gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il va aller intervenir dans des conflits qui, au départ, ne regardent pas du tout le Tchad. Les rébellions contre le pouvoir en place, des plus démocrates et progressistes aux plus fanatiques et religieuses, sont nombreuses. Et Déby, du coup, il militarise de plus en plus le pays pour s'assurer de garder le pouvoir. D'ailleurs, cela se fait au détriment de la population, alors que le pays est de plus en plus riche. Il faut savoir qu'il y a une meilleure exportation du coton, par exemple, que dans le même temps, on a découvert du pétrole, et que c'est une manne qui n'est pas négligeable. Et il est parmi les 5 pays les moins développés de la planète, selon l'ONU, ce qui est quand même juste surprenant quand on regarde les moyens qu'a le Tchad. La pauvreté, elle y est plus qu'endémique. On parle même d'esclavage, toujours présent sur le sol tchadien. Il faut savoir que quasiment 95% des mariages sont des mariages arrangés ou forcés. Voilà, donc ça met quand même une certaine atmosphère. Les enfants ont très peu accès à l'éducation. 62% des hommes et 78% des femmes sont illettrés.
Ouais.
Et ça, sur une population de 16,5 millions d'habitants. Donc, on le voit, c'est un contexte assez particulier, un pays qui finalement n'est pas vraiment un pays, au sens où on l'entend, qui serait plutôt une zone militarisée, quelque part, parce que les seuls qui finalement ont accès à tout, c'est l'armée.
Voilà. C'est ça.
Dans ce contexte, ce qui n'empêche pas, je précise qu'au Tchad, il y a aussi des vraies cultures, il y a de la musique, il y a des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent On présente souvent le Tchad pour son armée. Oui, il y a d'autres choses à côté, mais le pouvoir, très clairement, il est aux mains d'une junte militaire extrêmement sévère et féroce depuis bientôt 40 ans.
Voilà. Oui, en fait, le Tchad, ce n'est pas la Corée du Nord. Et pour non. autant, enfin, il y a des degrés, il y a des...
C'est ça. Mais en tout cas, je dirais que la vie des Tchadiens, elle est régie par l'armée, au nom de l'armée et pour l'armée en permanence.
Ah ben oui, oui, oui.
Donc, dans ce contexte, en 2007, explose une rébellion armée contre Déby et son gouvernement. Il faut dire qu'il s'est fait réélire en truquant les élections l'année précédente. Elle va arriver jusqu'à la capitale et prendre l'ensemble de la ville, à l'exception du quartier du palais présidentiel. Donc, en fait, pour les rebelles, la victoire, elle est assurée. Ouais. C'est-à-dire, vous encerclez le dictateur. Théoriquement, une fois qu'il est encerclé, il ne va pas avoir à bouffer pendant des siècles. Donc, ça devrait l'obliger à sortir. Bah, sauf que bah, y a un pays, tout petit pays, pas du tout connu, hein, qui s'appelle la France, hein, qui va venir prêter main forte au pouvoir en place et repositionner Idriss Déby comme chef incontesté de l'État et seul capable de maintenir la stabilité du pays, évidemment. Voilà. Oui.
Non, c'est juste, enfin, je me fais une remarque comme ça, hein, vite fait, c'est une blagounette plus qu'autre chose, mais c'est quand même marrant pour ce grand pays qui se réclame des droits de l'homme, tout ça, l'adoration quand même qu'il a, ce pays et ses gouvernants, pour des autoritaires, quoi. C'est... Ouais. Alors peut-être que c'est en lien avec les intérêts qu'ils en tirent et que finalement le plan politique, ils s'en tapent un petit peu, c'est surtout la logique économique qui se met derrière, quoi.
Je vais en parler plus tard, t'inquiète.
Ok, pardon.
Mais donc, non, mais voilà. Donc, c'était. Alors, attention, hein, quand je dis qu'ils ont repositionné Idriss Déby, c'était une opération militaire. Hein, donc, il y a eu des morts, il y a eu des bombardements, il y a eu tout ce que vous voulez. C'était une vraie guerre. Hein, c'était pas juste. Voilà. Donc, du coup, d'élection truquée en élection truquée, Idriss Déby se fera réélire jusqu'en 2021. Voilà. Il va, soi-disant, pour rattraper le retard de son pays, ouvrir le pays aux capitaux étrangers, dont notamment ceux de la Chine. Ce qui d'ailleurs vaudra une légère tension avec la France à ce moment-là, quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que ce qui lui est arrivé après est arrivé, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il va ouvrir. Mais alors, je vais être très clair, hein, ça profite avant tout à sa famille et à ses proches, hein, l'ouverture aux capitaux. Hein. Les 10 milliards de dollars générés par l'exploitation du pétrole depuis 2000 ne sont par exemple revenus à la population que de l'ordre de 1% de ces revenus, selon plusieurs ONG qui ont fait le calcul de ce qui était arrivé au niveau de la population.
Oui, c'est...
C'est rien, hein, faut être très clair. Les groupes rebelles décident donc de reprendre la lutte armée après cet énième affront du dictateur Déby. Et c'est lors d'une attaque des rebelles que Idriss Déby serait mort d'une balle perdue, selon la version officielle. Alors attention, il est mort soi-disant sur le front, pas dans la capitale. Il est mort très loin, sauf que, a priori, personne n'est capable de nous expliquer vraiment ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, oui.
Voilà. Alors, c'est marrant parce que ça rappelle l'assassinat précédent du premier président, hein, qui est mort en 75, qui, du coup, lui aussi, on ne sait pas trop dans quelles conditions il est mort. Voilà. Mais là, on nous dit que c'est une balle perdue du grand Idriss Déby qui était là pour guider l'armée. Et pas de bol, il y a une balle qui est arrivée jusqu'au général. Voilà.
Mais on n'en sait rien, en fait. Il y a plein de spéculations qui peuvent aller là-dessus.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ni plus ni moins qu'un énième coup d'État déguisé. Mmh, voilà.
C'est ça.
Bon, et maintenant ? Alors, parce qu'une fois qu'on en est là, hein, parce que là, je vous ai parlé d'avril.
Oui, c'est ça, c'est pourquoi tu nous parles de tout ça, là.
Ah oui, alors, les rebelles, ils voient dans la mort d'Idriss Déby l'occasion de revenir à une situation plus démocratique pour le Tchad. Mais c'était sans compter sur l'armée tchadienne et un de ses généraux qui décide de prendre le pouvoir pour, je cite, « protéger le pays », entre guillemets. Et voilà comment le Conseil militaire de transition, le fameux CMT, dissout la Constitution, muselle l'Assemblée nationale, qui pourtant entre nous n'était pas très virulente, voilà, et s'arroge tous les pouvoirs. Justice, police, soc, ça vient dans les mains de l'armée, c'est le CMT. Et on retrouve à sa tête, propulsé comme président, un certain Mahamat Idriss Déby,
oh.
fils d'Idriss Déby.
Ah, voilà. On est donc rassurés.
Bah, tout ça, ça reste en famille, c'est donc ça. Tout va bien. Voilà. Alors, ses positions, elles sont claires. Hein. Pas de négociation avec les rebelles, mais la mort pour tous ceux qui s'élèveront contre le Tchad. Voilà.
C'est une bonne entrée en matière.
Et pour lui, le Tchad, il est représenté par le CMT et donc, du coup, par la force des choses, hein, à la bon dos, la force des choses. C'est si vous attaquez au CMT, vous vous attaquez au Tchad.
évidemment.
Voilà. Donc, il va instaurer un couvre-feu. Alors, attention, quand je parle de couvre-feu, ce n'est pas un couvre-feu à la française, hein, vous savez, où malgré tout, vous pouvez quand même vous balader, personne ne va... Enfin, vous prenez 135 euros d'amende. Non, c'est un couvre-feu où si on vous trouve dans la rue, on vous tire dessus, hein, pour être clair, quand on parle de couvre-feu. C'est une interdiction de circulation, hein, et interdiction de manifestation sur le sol tchadien. Donc, on a enfermé les gens chez eux en disant bah, « vous ne pouvez plus bouger, sauf si vraiment vous travaillez pour quelque chose dont a besoin le CMT ». Voilà. D'ailleurs, les manifestations qui ont eu lieu, et parce qu'il y a quand même des manifestations, et je ne peux que saluer le courage de celles et ceux qui luttent, vraiment, eh ben, elles sont réprimées dans le sang et sans sommation. C'est-à-dire qu'ils voient arriver une camionnette qui se met en position et qui leur tire dessus. Voilà. Donc, les condamnations internationales, elles ont commencé à se faire entendre, et d'un seul coup, ben, y a eu une sorte de silence autour du Tchad qui a un peu surpris tout le monde, jusqu'à ce que l'on prenne conscience que la France apportait officiellement, par la voix de son président, Emmanuel Macron, son soutien plein et entier à l'armée tchadienne qui a pris le pouvoir, et en particulier à Mahamat Idriss Déby. Voilà. Macron ira même jusqu'à aller aux obsèques du père d'Idriss Déby, hein, voilà, et fera un discours pendant ses obsèques sans ambiguïté, où il dira cette phrase, que je pense qu'on pourra graver au fronton des injures totales aux droits de l'homme, « La France ne permettra à personne d'attenter à la stabilité et à l'intégrité du pays ». Voilà, alors quand on sait que les interventions militaires sur place de la France sont courantes de la part de notre pays, donc du coup, on comprend que cela a été reçu comme un soutien clair au CMT contre les rebelles.
Oui, on c'est ça, parce que c'est quand même marrant, c'est de se dire que une armée qui prend tout en main n'est donc pas dangereuse et n'apporte pas de l'instabilité pour un pays.
D'après en fait, Emmanuel Macron,
non. En fait, dans les faits, non. Au pays, non. Et pour l'économie, non. À la population, c'est tout à fait autre chose. Mais on s'en rend bien compte que là, encore une fois, les gens s'en tapent beaucoup quand même dans les élites, enfin dans les pouvoirs politiques qui gouvernent un peu partout.
Sauf que cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle ne passe pas inaperçue, et notamment au sein de l'Union africaine, qui condamne les propos d'Emmanuel Macron. Parce que ça fait un petit peu quand même le colon qui vient expliquer que dans sa colonie, on voit comme ça. Et donc, c'est un peu une première d'ailleurs, hein, que l'Union africaine montre les dents, on va dire ça comme ça, de façon aussi claire. Donc, ça a entraîné l'invitation du président de la République démocratique du Congo, hein, M. Félix Tshisekedi, qui assure la présidente tournante de l'Union africaine en ce moment, pour un déjeuner de travail à l'Élysée, comme on dit. J'aime bien les déjeuners de travail, c'est comme ça. À la sortie de ce déjeuner, le président français a légèrement modifié son point de vue en affirmant, attention, c'est subtil, « J'ai apporté mon soutien à la stabilité et à l'intégrité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. » Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition. Point, c'est fini. Alors, je vais décrypter un tout petit peu. Il faut savoir que les élections d'Idriss Déby, la France les a toujours validées, même quand on savait qu'elles étaient frauduleuses. Donc, quand on vous fait croire qu'on a envie d'aller vers des gens qui vont vers la démocratie, non. En gros, Macron nous explique qu'ils vont, s'ils font semblant de faire des élections, ça ira. C'est un peu le sens de sa phrase.
C'est ça.
Alors, on est bête, hein, finalement, on avait mal compris, hein, la première phrase. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est le fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que d'un côté, je réaffirme ma position France-africaine sur place, et en France, je vous explique que je ne vais pas vraiment faire ce que j'ai dit là-bas, mais quand même un peu. Voilà, c'est en même temps, quoi. Voilà.
C'est ça.
Et surtout, dans cette phrase de sortie d'Élysée, ne voyez aucun rapport avec le fait que l'Union africaine appelait implicitement au boycott de la France. Pensez donc, menacer l'approvisionnement des matières premières pour la France n'a eu aucun poids, évidemment, sur cette rencontre et sur cette sortie décisive. Non, je n'ose y croire. Voilà. Donc, on le voit, la situation du Tchad, elle est clairement une conséquence directe de la présence française dans la région et des choix stratégiques et géopolitiques faits. C'est ça qui est important, surtout. Nous ne pouvons pas aujourd'hui ignorer que le gouvernement du pays des droits de l'homme, hein, tu le disais tout à l'heure Jean-Yves, hein, comme dit le président, hein, très souvent, soit en fait le moteur du maintien aujourd'hui au Tchad d'une dictature militaire de plus en plus sanglante. Et ceci pour protéger avant tout les intérêts français dans la région et s'assurer un appui militaire dans la guerre inutile et malmenée contre le terrorisme dans la région, notamment au Mali. Voilà. nous pouvons aujourd'hui que nous porter aux côtés des Tchadiennes et des Tchadiens qui se lèvent non pour imposer un nouveau pouvoir basé sur la religion ou sur une vision ethnique de la gestion du pays, mais ceux qui désirent simplement sortir de la dictature pour aller vers plus de démocratie, à défaut d'autres choses plus libérateurs, évidemment. Nous devons, en tant que Français, parce qu'on est Français, résidents en France, voilà, ou les gens qui résident sur ce sol, mettre la pression sur les dirigeants pour que cesse cette France-Afrique et ce protectorat, entre guillemets, qui ne dit pas son nom envers le Tchad, parce que c'est grave. Et je vais finir avec une petite citation, comme le disait un poète chanteur militant, faisons donc attention à toutes ces oppressions, évitons l'ascension de toutes les exactions, faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution, attention, attention à toutes ces divisions, et surtout évitons d'être l'herbe des moutons. Voilà. Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Et c'est un certain Tikenja Fakoli. Voilà. Ben voilà, c'était mon petit point sur la situation au Tchad aujourd'hui et en lecture un petit peu plus, je pense, militante que ce que l'on peut voir par ailleurs.
Ben, c'est-à-dire que les autres s'acclament, se disent neutres, mais les visions ne sont jamais neutres. Et quand on ne soulève pas les problématiques justement d'intérêt économique d'un pays comme la France, mais alors c'est pour le Tchad, mais pour bien d'autres pays aussi, hein, et que c'est pas non plus que la France, parce que des pays hors même continent africain qui tirent profit de la situation de pays africains et de plein d'autres pays, il y en a plein, il n'y a pas que la France en fait. L'impérialisme, ou ce qu'on peut nommer la quête d'intérêt, et en tout cas le maintien des intérêts d'un pays dans un autre, ça touche tout le monde, et que c'est vraiment un truc qu'il faut aussi, je pense, voir d'un œil global, c'est vraiment cette notion-là, et que bah, les gens qui doivent gérer un pays sont ceux qui sont sur place, et si on peut carrément se passer d'un président, d'un militaire ou autre, c'est encore mieux, mais effectivement, je pense que déjà passer d'un dictateur qui a pris 30 ans de pouvoir à peut-être quelque chose d'autre qui y ressemble moins, c'est sûr que ce serait déjà une étape, à mon avis, assez formidable. Et aussi dans cette notion justement du contrôle des matières premières, quoi. Enfin, c'est quand même fou. C'est pas le seul pays. Il y a plein de pays. Enfin, il y a plusieurs pays comme ça qui ont des sous-sols hyper riches qui sont vendus à travers le monde et où en fait la populace elle reçoit rien. Clairement. Parce que les gouvernants au pouvoir se sont aussi alliés dans leurs intérêts à eux et rien qu'à eux et leur petite famille et leur gros portefeuille, quoi.
Alors, plusieurs analystes de l'Afrique estiment que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad est une des premiers affrontements, entre guillemets, entre Chine-Afrique et France-Afrique. Alors moi, je n'irai pas jusque-là parce que j'en sais rien et que très honnêtement, je n'ai pas les billes pour… voilà. Mais c'est vrai qu'il est quand même étonnant de voir que c'est au moment où Idriss Déby, père, décide d'ouvrir les capitaux à la Chine que d'un seul coup, il prend une balle perdue sur un champ de bataille et que son fils prend le pouvoir avec une armée largement armée et financée, et enfin peut-être pas financée, mais en tout cas formée et armée par la France. Voilà, effectivement, ça ressemble quand même à quelque chose de pas très clair et de pas très net. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'aller aux côtés et de se porter aux côtés de ceux et celles qui sont en lutte pour sortir de cet état militaro-dictatorial, parce que ben voilà, ils méritent eux aussi de vivre un peu plus décemment et un peu plus librement, voire même plus librement tout simplement.
Oui, c'est
voilà.
Ça en fait. Ok.
On met un peu de musique.
Allez, allons-y. À tout de suite. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you wanna fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You try to burn you up.
your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad.
Et si vous étiez déjà avec nous, vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu 102.2 sur radiocanu.org. Et si vous n'étiez pas avec nous, vous avez raté un bon moment et tant pis pour vous. Alors donc, du coup, on vient d'écouter Kaleo avec le titre Skinny. Voilà. Et moi, je vous conseille d'aller sur Internet chercher ce titre qui a été joué devant un volcan en éruption en Islande, parce que Kaleo est islandais et c'est juste magnifique. Et je pense, Clara, que ça te plairait beaucoup, non ?
Oui, tout à fait.
Ah, ben voilà. On l'a un peu réveillé, pardon. C'était pas voulu.
Non, j'ai fait. J'hésite entre les boutons à appuyer pour parler.
La technique, c'est mieux à la radio que via les réseaux Internet.
Différent, mais on s'y fait.
Et donc, on va continuer avec Jean-Yves qui voulait nous présenter ce soir une BD assez étonnante.
Tout à fait étonnante, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, ce soir, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Blanc autour, avec Wilfried Lupano au scénario et Stéphane Fer au dessin, et le tout, c'est aux éditions d'Argo. Bon, vite fait, une petite présentation des créateurs. Lupano, est-ce qu'il est encore utile de le présenter, vu que j'en ai déjà parlé ici à plusieurs occasions?
Avec des histoires de slip et de vieux.
C'est ça.
Ça.
Autour donc des vieux fourneaux, hein, c'est lui qui a créé les vieux fourneaux, qui a aussi créé le Loup en slip, et il a aussi réalisé les trois tomes des Communardes, qu'on vous conseille aussi, on vous en a pas jamais parlé, mais tiens, peut-être que ça sera l'occasion pour une prochaine. Et il a encore fait évidemment encore d'autres choses. Stéphane Fer, hein, qui lui est donc au dessin, il est passé par les Beaux-Arts, il a fait quelques années d'études dans l'animation, et ensuite il a décidé de travailler dans l'illustration et la bande dessinée. Il a publié au départ au sein de Collectif. Et en 2016, il dessine et écrit avec Simon Cansara, Morgane chez Delcourt, qui se propose de renverser la table ronde en abordant le cycle arthurien du point de vue de la fée Morgane. Voilà.
Alors, juste, je vous le conseille, c'est un bijou.
Ok, alors, tu connais.
Moi, qui suis très fan de la légende arthurienne, d'avoir justement inversé l'idée et d'avoir fait de la fée Morgane une féministe qu'on essayait de faire taire, c'est juste excellent parce que c'est vraiment un point de vue qui, à mon avis, est assez juste. Voilà.
Ok. Eh bien, très bien. Merci pour le conseil. En 2017, hein, il met en image « Quand le cirque est venu ». C'est une BD, en fait, c'est un conte que Wilfried Lupano déjà a créé, en fait, et c'est sur le thème de la liberté d'expression. Donc, il se lance ensuite en solo en 2019 avec un conte de sorcière, « Peau de mille bêtes ». chez Delcourt toujours, qui questionne en fait la représentation des genres dans les contes de fées. Donc c'est assez intéressant quand même de se dire que ces deux-là, qui ont quand même des... J'ai l'impression d'avoir des thématiques quand même assez politisées, alors sans être dans le discours, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve ça intéressant que les deux, justement, se réunissent et pour nous proposer donc Blanc autour, qui est sorti en tout début d'année 2021. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, il nous ramène hein, en 1832 à Canterbury, dans le Connecticut, État qui est à l'est des États-Unis. Alors, si l'esclavage est aboli dans cet État, hein, comme dans trois ou quatre autres États, la situation des personnes noires n'est pas vraiment des meilleures quand même, hein, faut pas se mentir. Même si elles sont dites libres, ben en fait, elles n'ont absolument aucun droit citoyen, dirons-nous, mais elles n'ont absolument aucun droit, quoi. Et donc, ensuite, on rentre dans la vie de Prudence Crandall, qui est institutrice, en fait, d'une école pour filles. Et ben, un jour, Sarah, une jeune fille du voisinage, qui est noire, vient la voir, en fait, avec le conseil de Maria, hein, qui est la bonne, de Madame Crandall, l'institutrice, bah pour lui poser une question scientifique, hein, physique même, autour d'un bâton qu'elle plante dans l'eau et qui en fait on a une impression qu'il est coupé quand elle le plante dans l'eau en fait. Donc c'est cette première approche en fait qui l'a fait aller vers cette institutrice et cette institutrice Prudence Crandall, bah l'accueille en fait dans son école. Et ça devient ainsi, Sarah devient la première jeune fille noire dans cette école. Évidemment, c'est le début des ennuis, parce qu'encore une fois, si l'esclavage n'est plus en place dans cet État, les partisans et les partisanes quand même de la ségrégation, de la séparation, toutes celles et ceux en fait hein, qui haïssent le mélange, sont bien, bien présents. Et sont souvent quand même très proches du pouvoir politique et religieux locaux, enfin des pouvoirs politiques et religieux locaux. Donc voilà, mais cette Madame Crandall, hein, cette institutrice, qui est soutenue en fait par des partisans et des partisanes de l'abolitionnisme, de l'abolition, de l'esclavage, bah, elle n'a pas dit son dernier mot en fait, même si en fait ça peut l'emmener à être poursuivie en justice ou à dormir derrière des barreaux en fait, hein. Et ensuite vient se poser la question, ce qui n'est pas vraiment posé comme une question, en fait, et si l'école, en fait, n'accueillait que des jeunes filles noires. Et donc, une quinzaine de jeunes filles noires, âgées de 9 à 17 ans, iront donc à l'école, auront accès au savoir, prendront du plaisir, seront considérées. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont, les plus grandes en tout cas, sont bien conscientes en fait de la notion de le savoir est une arme. Et là, je trouve qu'il prend vraiment tout son sens aussi. C'est-à-dire que c'est par le savoir et par la connaissance qu'on arrivera aussi à lutter en fait. Et c'est vraiment hyper intéressant, quoi.
Ben, en fait, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que cette institutrice, c'est dur à dire, institutrice, elle avait le choix en fait entre arrêter de recevoir des jeunes filles noires et garder une école de filles blanches. Et elle fait le choix inverse en disant bah, si les blanches sont dérangées, elles n'ont qu'à plus venir. Et du coup, il n'y a plus que des jeunes filles noires, c'est ça ? Ou elle dit il n'y aura plus que des jeunes filles noires.
Ah bah, c'est-à-dire qu'elle dit aux jeunes filles blanches, vous ne revenez pas après les vacances parce que je ne vous recevrai plus, je ne recevrai plus que des jeunes filles noires. Donc, c'est vraiment c'est une grosse claque dans la gueule de tous ses ennemis, quoi.
Ah, c'est un gros sacrément fort.
Hein. Ah oui, enfin clairement quoi. Et donc voilà. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que vu qu'il y en a certaines qui viennent vraiment de loin, hein, Sarah, elle habite dans le voisinage, mais il y en a d'autres qui viennent d'États voisins, etc. Et pour elle, en fait, ben il y a un dortoir en fait. Et donc il y a aussi une vie collective en fait qui se construit. C'est hyper intéressant, même ces moments-là dans la BD, c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on les retrouve, entre elles et avec leurs différences, etc. C'est justement ce que je me disais, c'est que c'est l'occasion vraiment de plus d'individualité. Finalement, elles sont plus juste ces petites filles noires qui veulent apprendre, elles sont aussi autre chose. Et ça, c'est toujours très bien de ne pas essentialiser les personnes. Et donc, on a celle qui aime prier avant de dormir, à celle qui est un petit peu plus fuyante, à celle qui est plus jeune et pleine de vie et qui finalement casse un petit peu la tête des autres. Donc voilà, donc c'est aussi vachement intéressant. Et il y a aussi des rencontres, dont celles qui sont récurrentes, hein, avec celui qui est surnommé le sauvage, allez savoir pourquoi, qui, lui, adore raconter la vie de Nat Turner, Alors, peut-être que certains et certaines auditrices et auditeurs le connaissent. Moi, je ne le connaissais pas, je ne crois pas. Mais en fait, c'est un an avant, donc en 1831, Nat Turner, en fait, hein, qui était un esclave qui savait lire et écrire. Et ça, c'est très intéressant et important, en tout cas, à garder en tête. Parce que ça nourrit l'imaginaire des Blancs aussi. Hein. Et sa bande, donc, hein, Nat Turner et sa bande, ont tué en 2 jours une 60aine de personnes blanches, issues de familles de propriétaires de terres et d'esclaves. Et quand je dis 60 personnes, ça va des femmes, des hommes, aux vieillards et aux enfants. Et forcément, ça a fait les titres des journaux nationaux et ça nourrit la notion de haine et de peur et de tout ça chez les Blancs quand ils voient donc une école de jeunes filles noires qui apprennent donc à lire, à écrire et à penser.
En fait, Nat Turner, ça a été l'essai du œil pour œil, dent pour dent, comme on dit dans l'histoire. C'était l'idée pour lui de dire on va traiter les Blancs comme ils traitent les Noirs. Et donc, du coup, il a fait effectivement ça, hein, avec sa bande. Et malheureusement, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits ont été faits sur lui en disant que si l'idée au départ pouvait paraître, entre guillemets, positive dans le sens ça va réveiller les Blancs, en fait, ça a eu un effet de crispation terrible. Et surtout, la presse s'en est emparée et les partis politiques aux États-Unis, et notamment le Parti démocrate à l'époque, qui aujourd'hui joue le parti le plus open-open. Faut se rappeler qu'en 1800 et des brouettes, c'est pas le plus open-open, hein, c'est plutôt l'inverse, va s'en emparer pour notamment légitimer les lois de ségrégation et légitimer le fait de pouvoir faire le fameux tir à vue, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre sur votre propriété et que vous avez peur, vous avez le droit de tirer, c'est normal, parce que vous vous défendez. Et ça vient de tout ça, ça vient de cette époque-là. Donc effectivement, il y a une grosse pression mise aux États-Unis.
Et ce qui est aussi intéressant, alors je sors un peu de la critique, ou en tout cas de l'expression sur ce personnage-là, Nat Turner, mais ce qui est intéressant, c'est justement quand il y a ce gamin qu'on appelle le sauvage qui va raconter ses histoires à d'autres filles, à des filles noires, en fait, on est aussi dans la confrontation entre personnes qui subissent des oppressions, mais qui n'ont pas la même vision de la réponse. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que oui, toutes les personnes noires ne sont pas forcément pour le œil pour œil, dent pour dent, etc. Et c'est très intéressant, en fait. C'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, hein, dans tout ça, vous imaginez bien que celles et ceux qui sont pour la séparation des personnes selon leur couleur de peau affichent leur haine, leur violence, et ils utiliseront absolument tout ce qui est en leur possession et en leur pouvoir pour contrer ça. Vraiment tout. En même temps, l'instit, hein, Prudence Crandall, elle le sait, mais elle recule pas. Donc c'est vraiment hyper, enfin vraiment vraiment bien. Mais ça sera mon dernier mais. Les haineux et les haineuses n'ont pas dit leur dernier mot. La suite, vraiment, je vous laisse la découvrir. Je vous invite à la découvrir. Et en fait, c'est ce que juste aussi un dernier petit point quand même qui peut peut-être être intéressant, c'est qu'en fait toute cette histoire est tirée d'une histoire vraie. C'est vraiment des personnages qui ont existé, etc., etc. D'ailleurs, la BD, en fait, elle se termine avec 5 pages de bio de certains de ces élèves de l'école qui s'appelait de Prudence Crandall, qui a été fait, donc ces bios, par la conservatrice du musée Prudence Crandall. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là aussi, on passe par le médium BD, mais moi, je reste vraiment persuadé que je trouve ce médium-là peut amener à s'intéresser plus profondément à d'autres choses. Mais vraiment, pour une première approche, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est ce que je voulais terminer là-dessus, c'est que pour moi, en fait, c'est le genre de récit qui est en fait un peu dans la même veine que la vie de Claudette Colvin, dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises dans cette émission. Alors évidemment, hein, à des époques évidemment différentes, hein, mais pour moi, c'est vraiment des petits bouts d'histoire. Alors ici, celle de la Canterbury Female School de Prudence Crandall, et qui ont permis en fait d'aller vers des grandes avancées et d'écrire en fait ce qu'on aime à appeler, ce qu'on relate tout le temps, la grande histoire. Et c'est vraiment, parce que j'en suis persuadé, la grande histoire, elle a une fâcheuse tendance quand même à réduire au silence ces tentatives-là, en fait, et à réduire ce qui a été un peu fait, tenté, etc., qui plus est quand c'est fait par des femmes, quand même, j'ai un peu l'impression que ça, c'est assez, là aussi, universel, hein, n'est-ce pas ? Ou en tout cas...
C'est pas un peu l'impression, c'est clairement ça.
Mais bien
sûr. C'est de l'ironie là où il ne faut pas en faire. Là. C'est
non, mais c'est aussi... C'est en rappel à ce qu'on disait autour de Claudiette Colvin, etc., qui a été évincée parce que trop jeune, trop femme, trop adolescente et trop pauvre et trop enceinte. Enfin bref, donc c'est vraiment ça aussi. Et justement, et que l'histoire, en fait, quand elle se réduit à quelque chose, à quelques faits, ben, en fait, elle perd de sa complexité, de sa multiplicité, en fait, et de sa richesse, mais comme plein d'autres choses, c'est-à-dire que... Mais pour plein de luttes, en fait, ça se passe comme ça. C'est pas un fait déterminant, c'est une multitude de choses qui ont été tentées avant, qui ont été... Ouais, qui ont été tentées, qui ont été fermées, qui ont été emprisonnées, qui ont été tuées. Enfin, mais elles ont participé à ce qu'un jour les vraies grosses avancées arrivent, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai adoré ça. Et alors aussi concernant le dessin, c'est juste magnifique, en tout cas selon moi. Il y a une légèreté dans les traits des personnages et en même temps tout à fait ce style, les robes, les coupes de cheveux. Là aussi, hein, coupe de cheveux, toutes les jeunes filles noires ont les cheveux lisses. Bien rangé, parce que on est quand même à une période où fallait quand même pas montrer si tu avais une coupe afro, ce qu'on appelle en tout cas afro. Donc voilà, c'est vraiment tout est vraiment très joli. Il y a une simplicité aussi dans les décors, c'est presque enfantin par moment. C'est vraiment très bien, et je pense que ça permet aussi peut-être d'après de faire lire cette BD pas des jeunes enfants, un peu avant l'adolescence. Je pense que c'est vraiment faisable. Parce qu'en plus, on n'est pas sur des scènes gore, etc. C'est pas du tout ça. Les choses sont sous-entendues, elles sont montrées un petit peu, mais on n'étale pas des cadavres, etc. C'est pas du tout l'idée du truc. Ce qui fait que je pense que vraiment ça s'ouvre, ça va pour un public assez large. Et il y a aussi un truc, c'est les couleurs. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas dans cet album, moi les couleurs, elles m'ont frappé. Il y a du rose, du violet, il y a quelque chose de très beau, de très doux et de... Ouais, enfin, c'est très joli. Enfin, moi, j'ai adoré ce jeu de couleurs, ce orange flashy sur les oiseaux, ce sel violacé. C'était... Enfin, bref, j'ai adoré. En même temps, sinon, je ne vous en parlerai pas ici. Hein. Donc, je rappelle le titre, c'est « Blanc autour » de Wilfried Lupano et de Stéphane Fer, aux éditions d'Argo. Et vous pouvez, je pense, la trouver assez facilement. Et sinon, mettez aussi la pression auprès de vos médiathèques et autres choses, structures associatives ou globales ou municipales, pour qu'ils commandent ce genre de livre. Parce que c'est aussi apprendre un bout de notre histoire, en fait. Hein, c'est un bout de l'humanité. Et que, en fait, j'ose espérer qu'un jour, on saura plein de choses sur plein d'histoires, parce qu'elles nous constituent tous, en fait. Vraiment, je le pense. Alors, peut-être que je suis un naïf. Ou un utopiste, ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave.
Non, c'est vrai que tout ce qui est humain est nôtre, hein, comme dirait la fondation du Secours populaire, mais je trouve que c'est une très belle, une très, très belle vision du monde. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est humain est nôtre, je trouve que ça résume bien le fait que toutes les histoires du monde enrichissent l'humanité, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle soit, en fait.
Je pense aussi.
Okay. En tout cas, tu m'as donné très envie de le lire. Sache-le, bon, je ne l'ai pas lu. Donc, vraiment, c'est
tant mieux. C'est un peu l'idée.
Ouais, sauf Clara, non. Mais moi, oui, en tout cas.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Oh. Alors là,
vous aurez une réponse en mode étrange, puisque le son de Clara est très défectueux. Mais c'est pas grave. Vous verrez, c'est tout ça très joli. Voilà.
Qu'est-ce que t'en sais ? Et donc, donc on s'écoute un petit titre de musique.
Ouais.
Allez, on y va. Après. Ça marche, à tout de suite.
Stay.
Et oui, c'est toujours la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. On vient de s'écouter Garbage avec le titre No Gods, No Masters.
Et entre-temps, Clara est revenue avec une meilleure connexion, vous avez remarqué?
C'est
La magie de
formidable.
la technologie.
C'est incroyable.
C'est magique. Et un retour de garbage, c'est toujours un grand plaisir. Voilà, c'était juste pour le dire.
Mais vous avez bien raison. Tu as
Une
bien
petite
raison.
brève?
Oui, c'est ça, tu avais une petite brève à nous lire?
Ouais, enfin, qui est un peu longue, alors pardon, hein, mais je vais vous lire la brève qui concerne Toutes aux frontières. Alors, c'est la création d'un groupe local à Lyon et un événement le 8 mai. Donc, c'est un appel à rejoindre le comité 69 d'organisation pour Toutes aux frontières. Alors, je rappelle que Toutes aux frontières, c'est un événement qui est prévu le 5 juin 2021 à Nice, un immense rassemblement suite à un appel à mobilisation transnationale pour une Europe sans frontières, organisée entre femmes, lesbiennes et personnes trans. Vous pouvez trouver plus d'informations à Toutes aux frontières. fr.wordpress, le tout bien sûr au pluriel, .wordpress.com, pardon. Sinon, vous allez sur le site Rebellion, vous avez les informations. Donc, le 8 mai 2021 est proposé un atelier de création de cerf-volant ouvert à toutes et tous. Et c'est l'occasion en fait de se faire connaître, de faire une cagnotte qui va permettre d'organiser un trajet solidaire depuis Lyon jusqu'à Nice. Et aussi, bah, du coup, de constituer le fameux collectif 69. Et l'horaire, bah, c'est de 14h à 17h. Le lieu, c'est au TNP de Villeurbanne, 8 place Lazare Goujon. Mais le lieu est à confirmer parce que ça dépendra si le TNP est encore occupé ou pas. Voilà, donc
C'est
vous
ça.
suivez ça. Voilà, et bah, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Rebellion, vous tapez Toutes aux frontières sur votre moteur de recherche, vous trouverez les infos.
Eh bien, très bien. On se quitte là. Alors, on peut rappeler qu'on était le 1er mai, que beaucoup de personnes ont été dans la rue pour manifester. Alors, beaucoup, on ne sera jamais assez, je pense, ni dans celle-ci, ni dans toutes les autres. Et que la lutte se passe aussi dans les lieux où vous êtes, c'est-à-dire dans la rue, dans la vie, au travail, à l'école. Et en fait, partout, la militance ne s'arrête pas à un jour spécifique dans l'année, pas plus le 1er mai que le 8 mars ou ce genre de grandes dates qu'on a tous en mémoire.
Et soutien aux interpellés. Et si vous êtes interpellé, n'oubliez pas que la comparution immédiate n'est pas une obligation. Ne restez pas seul et faites-vous aider par des collectifs et des avocats. Voilà. Même si vous n'avez pas l'habitude de cela, et ben vous avez le droit de dire aux policiers, non, 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 je ne veux pas la comparution immédiate. Je veux un vrai jugement. Voilà.
Oui, c'est ça. Eh
Bon.
bien, on va se quitter sur ces bons mots. On va se quitter avec un titre. Alors là, c'est vraiment pour terminer tranquille la soirée. C'est de Francesca Guccione. Guccione?
Goussionnet.
Guccione, pardon. Avec
Voilà.
le titre Mukwetae.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Taya. Mukwetae. Ouais. Je suis désolé, vous
Ce sera
retrouverez.
écrit sur le blog.
C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Et désolé pour
La
la langue,
prononciation.
la prononciation. J'ai déjà du mal avec le français, donc vous imaginez bien avec les autres langues. Ben, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, et on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, toujours à l'antenne de Radio Canu.
Et a priori, la semaine prochaine, bah, ce sera le 9. Hein.
C'est
Voilà.
tout à fait ça.
Ah ouais, non,
Le
mais ouais,
9.
c'est vrai.
C'est un truc de dingue.
J'allais dire le
Voilà.
8, hein, je sais dire.
Et
Allez, bon courage à toutes et à tous, des bisous.
Des bisous à la
Ciao,
semaine prochaine. Salut.
ciao.